Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, le premier des deux rendez-vous de la journée, puisque nous nous retrouverons en fin de soirée. Et nous vous dirons pourquoi, parce qu'il y a un France-Turquie, une rencontre sous très haute surveillance tout à l'heure au Stade de France. L'enjeu sportif est dépassé par le contexte diplomatique des relations actuelles entre Paris et Ankara, dépassé aussi par l'écho que les joueurs de la sélection turque ont donné à l'opération militaire lancée en Syrie. Espérons que le jeu et la tactique reprennent le pas dès le coup d'envoi. Car la confrontation promettait déjà d'être très disputée après la déroute des Bleus en juin dernier. Un air de revanche sportif devrait motiver les champions du monde désireux de finir premier de leur groupe. Match donc retransmis en direct sur RFI dès 20h37, heure de Paris, 18h37, temps universel, et une deuxième édition de Radio Foot. Toutes les équipes africaines en course pour la CAN 2021 au Cameroun sont désormais connues. Fini le tour préliminaire, les 12 groupes sont au complet. Le Tchad et les Comores participeront notamment aux éliminatoires parmi les 51 nations prétendantes. Rudy Garcia à la tête de l'Olympique Lyonnais, 8 jours après la démission de Silvinho. Eh bien, Juninho a donc choisi, et c'est Rudy Garcia, l'ancien entraîneur de l'OM, mais aussi de Lille, mais aussi de la Roma en Italie, qui reprend donc les rênes de cette équipe, et nous essaierons de comprendre pourquoi. Invité dans ce studio aujourd'hui pour évoquer ces sujets, Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, ainsi que Étienne Moati, notre confrère de l'équipe. Bonjour Étienne.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ouais, Franck qui a fait le tour des Hauts-de-France pour aller voir jouer les équipes africaines qui étaient en sol français. Et nous y viendrons bien sûr dans l'émission Radio Foot. C'est parti. L'affiche était prometteuse car le match aller avait tourné à la déroute des champions du monde en territoire turc en juin dernier. Défaite 2-0 dans l'antre surchauffé de Konya, où l'équipe de France aurait sûrement envie au match retour de laver l'affront, pensait-on, et surtout de se qualifier dès ce soir par une victoire. Mais aujourd'hui, l'enjeu sportif de ce match est soudain occulté par le contexte géopolitique suite à l'attaque de la région kurde du nord de la Syrie par l'armée turque. Les dirigeants français ont critiqué la politique du Premier ministre Erdogan. Des manifestations ont eu lieu à Paris au cours du week-end comme dans d'autres villes du monde. Et au Stade de France ce soir, on attend 30 à 40 000 supporters de la Turquie, peut-être la moitié des spectateurs. Et alors, on se souvient de ce fait survenu à Konya. La Marseillaise avait alors été sifflée, mais des conseils sont venus d'Ankara aujourd'hui pour conseiller aux supporters turcs de ne pas siffler cette Marseillaise ce soir dans le stade. Et nous verrons donc. Et puis, depuis, il y a eu aussi ce salut militaire des joueurs turcs qui célébraient leur but inscrit face à l'Albanie vendredi soir, le but victorieux. Et la photo prise aussi dans les vestiaires d'une équipe et de son staff au garde-à-vous. Geste politique sujet à un examen de l'UEFA, mais que revendiquent les joueurs comme le milieu de terrain qui évolue au Başak Şehir, Irfan Kavesi, au micro d'Antoine Grenier.
Ce n'est pas une guerre, il s'agit d'une opération contre le terrorisme. Nos soldats sont partis se battre contre des terroristes. Nous espérons simplement que nos soldats reviendront tous à la maison.
De la politique au milieu du foot, ce joueur évidemment soutenu par son sélectionneur, alors que ce soir en tribune officielle sont annoncés deux ministres turcs, celui des sports et celui de la justice, et aussi l'ambassadeur turc à Paris. Résultat en tout cas, un Stade de France en état de siège, 600 policiers en renfort autour de l'enceinte, et nos envoyés spéciaux, ceux qui commenteront le match ce soir, sont déjà parti vers le Stade de France. On imagine que ce sera compliqué d'accéder à l'enceinte. Des voix dans le milieu politique aussi se sont élevées en France pour demander de faire annuler ce match. Étienne Moati, est-ce qu'il aurait fallu faire annuler ce rendez-vous sportif pour des raisons politiques, clairement politiques ou géopolitiques ?
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la décision d'annuler un match ne peut pas venir donc uniquement de la France, ça doit venir de l'UEFA. Maintenant, si on commence à annuler des matchs à chaque fois qu'il y a, on va dire, un conflit entre deux pays, et qui est pas un conflit armé, là, on parle d'un conflit donc géopolitique avec des visions différentes de ce qu'il faudrait faire ou pas, on entre évidemment donc dans un processus qui pourrait se répéter à de nombreuses reprises. Donc, je pense pas évidemment qu'il fallait en arriver là.
Gilles.
Ben, moi, ce qui me gêne de la part des politiques qui réclament l'annulation, c'est que ils ont une analyse là, sur l'événement.
Immédiate.
Mais voilà, je les ai pas entendus dire que, la Coupe du Monde de football en Argentine au temps de la dictature, que je sache, était un scandale. Que les JO de Pékin, on aurait pu décider de pas y aller. Comme disait Étienne, à chaque situation son examen. Mais si on globalise,
mais ça se multiplie quand même un peu dans les rencontres européennes. On se souvient de ce drapeau de l'ancien Grand Kosovo, hein, si je me trompe pas, ou Grande Albanie, enfin, et Grande Serbie. Il y a comme ça des provocations actuellement ces dernières années, des provocations nationalistes.
Il y en a toujours eu. Et l'Italie dans les premières coupes du monde au nom de Mussolini. Donc il y en a toujours eu. Et pour moi, le football est politique. Donc il est triste, mais normal que le terrain de football serve à des motifs politiques. Et les tribunes également, ça a toujours été le cas. Donc si on doit annuler effectivement à chaque fois qu'un mouvement politique fait irruption sur une pelouse de football ou autour d'un match dans le contexte, ça va devenir très compliqué. Et par ailleurs, si la France annule unilatéralement, politiquement, ce match,
là on perd sur tapis vert.
Mais nous allons être sanctionnés et nous risquons d'avoir une lourde suspension pour notre équipe nationale.
Franck, est-ce que les joueurs peuvent être atteints, je dirais, par ce contexte, parce que on voit bien que là, ils jouaient à domicile quand il y a eu ces saluts et quand il y a eu cette attitude clairement dédiée aux soldats qui actuellement sont en train d'agir dans le nord de la Syrie. Est-ce que aujourd'hui ils vont pouvoir s'extraire de ce poids
De quel joueur vous parlez exactement?
Les joueurs turcs.
Les joueurs turcs, non, ils peuvent pas en faire abstraction, parce que eux, ils sont vraiment plongés dedans. Voilà, et on entend bien le
témoignage. C'est la sélection nationale qui reflète quelque chose, c'est
ça ? Oui, quelque part, oui. On a entendu Kaveh Dzeu l'exprimer. Donc, c'est clair que comment c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur pensée du moment. Ça agite les pensées du moment, parce que
Ils n'ont peut-être pas le choix non plus, d'ailleurs.
Non, mais c'est pas ça. Imaginez que peut-être que parmi les troupes, ils ont aussi des parents. On peut très bien l'imaginer, d'avoir des parents parmi ceux qui sont sur le théâtre d'opération. Donc, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile, les moments où vous représentez une nation, un pays comme ça, de faire abstraction. Après, le discours des joueurs français et des Bleus, on le connaît déjà. On sait qu'eux, ils sont dans leur bulle, ils ne lisent rien, ils n'écoutent rien, ce qui n'est pas vrai. Hein. Mais forcément que pour les joueurs turcs, vous savez très bien que comment, par exemple... Je vous le dis parce que il se trouve que c'est un championnat que je suis et commente la Turquie. Avant les matchs, il y a l'hymne national. C'est quelque chose qui est très présent, très prégnant football là. Et voilà, la nation,
dans
la
cette
Turquie,
nation-là.
Le président, ils n'en sortent pas, quoi, en fait.
En même temps, Étienne, c'est vrai qu'on se souvient par exemple du moment des attentats, notamment de l'attentat du Bataclan. Après, il y avait eu cette minute de silence si poignante à Londres, et là, on estimait que c'était pour une bonne cause et on ne s'était pas extrait justement du contexte politique.
Oui, donc là où je rejoins Franck, c'est que évidemment ça n'a strictement rien à voir, que ce soit pour les Français ou pour les Turcs. Je pense que les joueurs français donc ne seront pas particulièrement impactés par tout cet environnement. C'est finalement assez loin d'eux.
S'il y avait des sifflets.
Bon, les sifflets, ils en ont déjà entendu au Stade de France, qu'ils soient pour des raisons politiques ou sportives. Donc, je pense que ce sont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Ils ont l'habitude de jouer dans des climats qui peuvent être hostiles. Et je pense pas que ça les impressionne. Maintenant, pour revenir un petit peu à ce que font les Turcs, c'est eux qui font descendre un petit peu sur le terrain sportif ce qui est une affaire politique. Et il faut quand même qu'ils se méfient, parce que vous dites que l'UEFA a laissé faire les saluts militaires. Pour l'instant, le cas n'est pas encore complètement traité.
Oui, examinent. Mais qu'est-ce que ça veut dire examiner ?
C'est-à-dire qu'ils vont voir s'il y a un cas disciplinaire, comme on dit, donc dans le langage de l'UEFA, est ouvert ou pas. Et à mon avis, il a quand même des chances de l'être. Et ça pourrait aboutir à des sanctions donc, contre l'équipe nationale et la fédération turque. Après, pas des sanctions pour l'instant très fortes.
C'est dans les textes, donc.
Absolument. Voilà. Donc le pouvoir sportif est toujours très, très, très attentif à ce qu'il n'y ait pas d'invasion du politique dans le football. C'est le cas de la FIFA, qui l'a fait savoir à de nombreuses reprises, qui est capable de suspendre une fédération quand il y a une ingérence politique trop forte.
Ouais, on se souvient qu'en Amérique latine, pendant la Copa América, il y avait eu aussi des gestes et ça n'a jamais été autrement sanctionné.
Ah, il y a des fédérations qui ont été suspendues dans l'histoire.
Quand on avait un président de la République qui alors, s'est promené dans un stade pour se faire ovationner.
Ce sont souvent des fédérations les moins importantes et celles qui ont le moins de poids.
C'était celle du Brésil quand même.
Mais voilà, celles-là, les fédérations les plus importantes souvent échappent
sont
un petit peu aux sanctions, mais il faut quand même que les Turcs se méfient.
Ouais. Gilles, un petit mot encore ?
Après, c'est de mon point de vue, effectivement, les instances internationales qui doivent trouver un moyen d'éviter ces ingérences répétées. Parce que la médiatisation du foot fait que le contexte sportif devient propice à, effectivement, presque propagande.
Bien
là,
sûr.
On peut le dire, ce salut-là. Ouais,
c'est une
caisse
de résonance.
Exactement. Donc, il faut trouver un moyen pour juguler ça. En plus, il y aura les télévisions du monde entier tournées sur ce match. On imagine le scandale diplomatico-sportif si la Marseillaise était sifflée ce soir. Alors, on va la faire très fort, on va essayer, voilà, on va prendre des tas de systèmes palliatifs. Mais s'il y a encore des sifflets après le match aller, là, ça va encore recréer du scandale. Donc, c'est un match à très haut risque. Mais encore une fois, pour moi, la politique est consubstantielle du football. Ça a toujours été le cas. Donc, il faut trouver des moyens que le foot ne soit pas submergé, envahi.
Ouais.
Mais voilà, c'est le sport mondial et je vois pas très bien comment supprimer ça.
Mais d'ailleurs, il y en a qui tentent d'enrayer ou d'anticiper. Je pense à ces deux joueurs d'origine turque de l'équipe d'Allemagne, que sont Gundogan et Emre Can, qui hier a été exclu du match, mais qui ont, selon aujourd'hui la Fédération allemande de football, eh bien commis une erreur en likant, comme le veut le langage du monde de Twitter, mais ont liké donc une photo des joueurs turcs, justement effectuant le salut militaire. Et ensuite, Gundogan s'est excusé. Mais on se souvient que quand il avait été pris en photo avec Erdogan, ça avait aussi, créé plutôt un problème relationnel entre lui et les supporters allemands. Et Ozil, d'ailleurs, un peu à la suite de ça, avait disparu.
En tout cas, ce qu'on peut espérer pour ce soir, c'est qu'on en reste donc simplement à des sifflets de la Marseillaise et qu'il n'y ait pas des incidents bien plus graves.
Bon, on verra ça et on espère surtout que le match se déroulera normalement et qu'il ira à son terme dans le Stade de France où nous retrouverons nos camarades, justement. Descendons un peu sur la pelouse, chaussons des crampons et parlons de ces deux équipes qui vont se retrouver face à face. Deux équipes avec le même nombre de points actuellement dans ce groupe H, soit 18 points. Et avant que ce match n'ait donc une lecture aussi géopolitique, RFI avait décidé de retransmettre le match parce que ça avait un peu des allures de finale de groupe. Si la France gagne ce soir, elle est qualifiée. Alors d'ailleurs que en cas de victoire de la Turquie, elle ne le serait pas encore. Les Bleus sont-ils méfiants après la leçon reçue du côté de Konya? En tout cas, ils veulent profiter, et bien eux, où ils auraient aimé profiter, en tout cas c'est ce que dit Raphaël Varane, pardon, ils auraient aimé profiter du fait de jouer à domicile.
C'est une opportunité devant notre public de réussir une belle performance. On a en plus l'occasion de faire un très très grand pas vers la qualif. Donc c'est notre objectif numéro un et on va tout faire pour gagner. C'est clair, et puis on aura face à nous un bel adversaire. En plus de ça, comme je l'ai dit, au match aller, on n'a pas réussi à être performant. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de montrer un autre visage et de devant notre public réussir à se qualifier.
Alors montrer un autre visage, certes, l'équipe turque a un excellent parcours hein, et Didier Deschamps l'a défini comme efficace et solide. Mais les Bleus, chez eux, sont-ils favoris, Gilles ?
Ils sont favoris et surtout ils sont revanchards. Qu'on ne me dise pas que le match aller a été digéré. J'ai rarement vu pire prestation des
Champions
Bleus
depuis. Champion du monde battu. Bon, c'était pas la première défaite, mais la deuxième.
Non, mais dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans l'impact, dans tout. Toutes les qualités techniques, tactiques, physiques, il n'y avait rien.
Et il y avait tout le monde pourtant là.
Et il y avait tout le monde. Mais là quand même, je pense que l'état d'esprit va être revanchard. Oui, les Français sont favoris. Normalement, ils doivent gagner. Et ça permettrait aussi à Deschamps, dans les matchs qui restent, de faire des essais, de plus avoir la pression. Donc je pense qu'on peut considérer que la France est largement favorite.
Etienne, même cette équipe de France amoindrie, hein, on rappelle, il y a beaucoup d'absents. Ils étaient déjà absents en Islande, mais il y a beaucoup d'absents. Est-ce que, je pense à Mbappé, je pense à Lloris, bon, et tous ceux qui n'ont pas vu participer, est-ce que vous les voyez favoris aussi ?
Oui, moi je les vois nettement favoris.
Ils se sont ressaisis depuis le mois de juin ?
Ils se sont d'abord ressaisis, mais ce match-là, c'était un match qui pour le coup, pour moi, n'avait pas grand sens. Il n'y avait pas d'équipe de France sur le terrain. Il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait aucun investissement. Et ce n'était pas la qualité des joueurs qui étaient en cause, c'était leur niveau d'investissement. Et
c'était le mois de juin, c'était juste avant les vacances, c'est ça ?
Voilà, et je pense que ces joueurs-là, donc, qui ont été prévenus une fois, et qui aujourd'hui donc, sont au meilleur moment quasiment donc, de leur saison, si on regarde quand même poste pour poste, l'équipe de France est nettement au-dessus de cette équipe turque en termes de qualité individuelle. Et en termes de capacité collective, donc normalement l'équipe de France au Stade de France, quand elle a un match décisif, elle gagne. Et même s'il y a ce contexte extrêmement compliqué, je pense que l'équipe de France va gagner.
Alors Franck, vous qui commentez c'est souvent le championnat turc, parlez-nous de cette équipe turque efficace et solide. Il faut s'en méfier
quand
même.
C'est pas une équipe qui marque énormément de buts, mais c'est une équipe qui est effectivement qui est plutôt solide. Moi, ce que je note quand même, c'est pas il y a quand même énormément de joueurs qui viennent de la Super League. C'est-à-dire que comment le sélectionneur comment Senol Güneş s'appuie vraiment
sur le championnat local.
Sur son championnat. Il a quelques expatriés qui sont connus. Mm-hmm. Vous savez que depuis cet été, on a de plus en plus de Turcs qui arrivent. Hein.
Oui.
Il y en a d'ailleurs un qui est connu, Yassi Dje, qui est à Lille, qui est arrivé, qui est un bon joueur, mais qui est sur le banc, a priori. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les Bleus. Mais c'est très, très, très solide. Le gardien, je le connais bien. C'est le gardien d'Istanbul, Başakşehir, Günok. C'est aussi, ils ont de très, très bons gardiens dans ce championnat. Et lui est un bon spécialiste. Moi, c'est peut-être au niveau de l'axe que je me dis qu'il y a quelque chose à faire pour nos Bleus, nos Français. Et puis devant,
on a le fameux Yılmaz quand même, qui avait fait du mal.
On a Burak Yılmaz qui est pas dans sa meilleure période avec son club en particulier, parce que Beşiktaş est vraiment très mal. Ils se sont fait gifler il y a pas si longtemps d'ailleurs en Ligue des Champions, me semble-t-il.
Oui.
Et à la maison. Et donc je me dis que comment. Les Français, comme disent mes collègues, sont largement favoris, puis surtout munis de cette précaution du match aller, quoi. Voilà.
Gilles.
Après, la Turquie n'a plus jamais aussi bien joué qu'au match aller. C'était une sorte de match lumineux pour l'équipe turque.
Mais il y avait toutes les conditions, rappelons-le, parce qu'ils avaient joué dans un stade qui n'était ni à Ankara ni à Istanbul, dans un stade pratiquement préparé pour cet événement et pour peut-être aussi piéger les Français.
Oui, mais même dans leur expression collective, on avait l'impression d'une équipe irrésistible qui allait à 200 à l'heure. Et après, ça a été poussif. Des victoires à la dernière minute, quelques faux pas. Donc je pense que ce jour-là, la France a sous-joué, mais que la Turquie était aussi en sur-régime.
C'est peut-être aussi qu'effectivement, tu as raison, hein, ils ont plafonné. Et après, c'est compliqué, une fois que tu as fait ce match référence, de le reproduire, de le dupliquer tout simplement. Quoi, voilà. Mais je pense que ça va être une équipe qui va être pas simple à manier, mais les Français, je pense, ont largement de quoi faire et peuvent s'imposer. C'est un match important et généralement, dans ces cas-là, ça, ils ne tremblent pas, quoi. Voilà, ils savent ce qu'il faut faire.
Étienne, est-ce que cette équipe de France que vous voyez favorite vous a rassuré, celle que vous avez vue jouer à Reykjavik vendredi soir et qui a gagné 1-0 sur penalty, un peu au forceps?
Est-ce qu'elle m'a rassuré ou est-ce qu'elle m'a séduit?
Je sais pas, les deux.
Les deux.
Mais c'est pas exactement la même chose.
Non,
elle m'a plutôt rassuré parce que autant elle a eu une entame compliquée où il y avait peu de vitesse, peu d'enchaînement. Mais si vous regardez le match, elle n'a été quasiment jamais mise en difficulté. Donc je l'ai trouvée finalement plutôt rassurante, mais j'ai trouvé aussi un peu ennuyeuse et que on reproduit aujourd'hui.
Elle s'est mise au diapason
diapason de ce match ennuyé, mais surtout dans sa, on va dire dans sa logique propre, comme elle était devenue championne du monde, c'est-à-dire avec Blaise Matuidi qui occupe le couloir gauche, et c'est évidemment pas son poste, ça veut dire qu'on renforce le milieu de terrain. On va dire la logique de prudence de Didier Deschamps ne l'a pas encore abandonnée, et je suis pas sûr que ce soit ce soir qu'elle soit encore totalement abandonnée.
Non, il est toujours là d'ailleurs Matuidi, théoriquement sur la compo que donne l'équipe aujourd'hui.
J'entends Étienne parler d'ennui. L'ennui, pour moi, c'est une notion subjective qui s'attache aux émotions et au vécu de chacun.
Mais parce que toi, tu vis une vie formidable. Chaque instant est une fête. Tu as une chance.
Mais comment peut-on s'ennuyer devant un match de l'équipe de France qui n'encaisse pas de but, qui marque au bon moment, qui empêche les Islandais d'avoir quelque action que ce soit, qui s'exprime sur un terrain difficile dans un contexte lointain, qui gagne 1-0 presque qualifié pour l'Euro? Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé. Non seulement elle m'a rassuré, mais oui, cette équipe de France, je sais que je suis minoritaire, mais elle m'a totalement séduit.
En fait, il nous vend une boîte de conserve un truc de supermarché que j'achète en bas de chez moi, comme si c'était un menu de chez trois
groupes. C'est-à-dire que Gilles Verdez, quand il regarde les matchs, il boit les bouteilles de champagne avant.
Avant.
Il boit les matchs. Il est toujours à la
fin. Exceptionnel, hein, Gilles, là, franchement.
Mais sur ce match-là, si c'est le plus haut match de foot que tu as vu ces dernières années, je te plains.
Mais Gilles, surtout que, si je me souviens bien, vous, le match parfait, c'est 0-0. Donc, ce n'était même pas le match parfait.
J'avais pronostiqué le score à votre antenne. Je le dis avec modestie. C'est sûr qu'on allait gagner 1-0. On n'allait pas encaisser de but et mettre le pénalty qu'il fallait au bon moment. Pénalty au demeurant indiscutable.
Bon, en tout cas, c'est très important pour les Turcs. On le disait, Franck, mais aussi dû à leur classement dans ce groupe parce que l'Islande est juste derrière.
Il
reste encore deux matchs à chaque équipe et donc après celui-là,
voilà.
Et l'Islande n'a pas dit son dernier mot. L'Islande qui reçoit Andorre aujourd'hui.
Ouais, donc a priori, l'Islande va encore plus se rapprocher d'eux, mettre la pression sur eux. Mm-hmm. Mais honnêtement, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, la France a vraiment les moyens de les embêter. Et puis effectivement, un zéro suffit. Hein, ce soir, on demande pas.
On demande qu'on s'ennuie pas.
Ouais, non plus, surtout pour le public. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une belle. Je pense qu'il y aura quand même malgré tout une belle ambiance. Ils ont commencé déjà à en mettre les Turcs là dans le quartier du Stade de France. On a vu déjà sur les réseaux sociaux que ça fumait déjà bien dans le quartier. Voilà, les fumigènes étaient de sortie.
Il n'y aura pas d'alcool distribué en tout cas dans le pourtour du stade. Rendez-vous donc, n'oubliez pas sur RFI dès 18h37 temps universel, 20h37 heure de Paris avec Antoine Grenier et Olivier Pron. Et nous serons là dès 21h10 temps universel pour tous nos auditeurs africains. On continue.
Simon en position frappe, préfère centrer pour Haribo. Oh, c'est remarquable que c'est bien fait de la part d'Haribo, le milieu terrain des Rangers, qui permet aussi Périgueux de mener 1-0 face à la Célestin. Au centre d'Alves, c'est le coup de tête qui vient heurter la barre transversale et ensuite c'est Casemiro qui permet à la Célestin d'égaliser et on en restera là.
Le Brésil tenu en échec par des équipes africaines. Et oui, après le score nul 1-1 face au Lion du Sénégal, eh bien, les champions d'Amérique du Sud se sont heurtés aux Super Eagles qui avaient terminé troisième de la CAN. Score là aussi de 1-1. Guernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, a apprécié ce test amical en dépit des kilomètres à parcourir puisque le match se déroulait à Singapour.
Une magnifique expérience pour ma jeune équipe. Mon équipe avait une moyenne d'âge là de 23,2, donc très très jeune, plus jeune encore qu'à la Coupe d'Afrique, mais elle a tenu la dragée haute à ces Brésiliens qui pourtant sont arrivés avec la meilleure équipe possible et on a réussi à faire ce match nul un partout qui prouve que le football africain n'est pas si ridicule que ça puisque le champion d'Amérique du Sud n'a pas réussi à battre ni le Sénégal ni le Nigeria.
Franck Simon, est-ce que il a raison Guernot Rohr quand il en conclut que l'Afrique n'est pas si ridicule sur ces deux matchs?
Annie, est-ce que vous avez vu les images du premier match de jeudi entre les Lions de la Teranga et le Brésil?
J'ai suivi.
Voilà, ils sont fait un peu plus secoués d'ailleurs par les Lions de la Teranga. Je pense que ça doit faire plaisir à Gilles que par le Nigeria qui a ouvert la marque, mais qui derrière ils ont écopé quoi. Ils se font rejoindre et après ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais bien sûr que c'est positif. Ça reste quand même une des grandes nations. C'était un tour qui avait été bâti aussi d'abord pour générer de l'argent, mais aussi pour se rassurer et l'équipe nationale du Brésil ne gagne toujours pas, quoi.
Donc quatrième match sans gagner de match.
Donc bien sûr. Et puis moi, je voulais d'abord revenir sur le premier parce que on a eu le grand Sadio Mané, du très très grand Sadio Mané. Hier, on a eu effectivement ce qu'a souligné Guernot, cette jeunesse du Nigeria qui a été épatante, quoi. Mm-hmm. Et voilà, ça confirme aussi qu'ils ont pas fini sur le podium de la dernière Coupe d'Afrique des Nations par hasard.
Elle était déjà très jeune à la CAN.
Oui, et là il avait encore rajeuni les cadres. Oui. Les Brésiliens ont découvert qu'il y avait un joueur qui s'appelait Osimhen, qui faisait plein de jolies choses dans le championnat de France. Ils l'ont appris à leurs dépens. Et puis on a aussi découvert
des joueurs brésiliens qui évoluent dans le championnat de France.
Ouais, mais visiblement, toi, ils n'avaient pas dû leur poser. ils n'avaient pas prévenu le coach que ce garçon pouvait être un petit peu gênant. Puis on a eu aussi un but d'un joueur qui est tout récent en équipe nationale, l'ancien joueur de Charlton Athletic et maintenant aux Rangers, qui est le buteur Joe Haribo. Voilà, qui arrive un petit peu comme une fleur, une jolie fleur. Donc ça, c'est bien ça.
Gilles,
il n'y a pas de hasard. Avant ces deux rencontres, le Brésil restait sur 33 victoires en 34 matchs contre des sélections africaines. Et là, d'un coup, deux matchs nuls. Donc, c'est pas un hasard. Certes, il y a un côté exotique, parce que c'était à Singapour, mauvais terrain, on peut discuter de les conditions météo.
Mais c'est vrai qu'il y avait la grande équipe de Tite.
Il y avait la grande équipe. Et les statistiques parlent. Mm-hmm. Le Brésil n'était pas mis en difficulté par les sélections africaines. Et là, il l'est. Et ce Brésil, qui a été extrêmement faible en première mi-temps, il s'est quand même repris en seconde période. Donc, ça prouve que le niveau des sélections africaines, de ces deux-là en tout cas, mais qui font partie des meilleurs.
Qui font partie, effectivement.
A réellement progressé. Parce que sur les deux matchs, il n'y a pas de scandale aux deux fois un partout.
Non. Même s'ils ont été quand même secoués, il faut reconnaître. Hein. Les Nigérians, en seconde période, ils résistent bien. Et avec cette jeunesse, c'est bien ce qu'ils ont réussi à obtenir. Mais c'est vrai que t'as le deuxième, le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le vice-champion, le Sénégal, fringant. Et puis le médaillé de bronze.
Exactement.
Ça nous change des claques reçues par le passé, par le Cameroun notamment, et d'autres.
Le Gabon.
Voilà.
Il y a peut-être bien deux phénomènes qui se conjuguent. Évidemment.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Brésil n'est pas aussi un peu pâlissant?
Je ne sais pas s'il est pâlissant, mais est-ce qu'il est très motivé quand il joue ces matchs-là? Évidemment, donc ces nations africaines qui sont parmi les meilleures du continent, elles sont capables de rivaliser avec beaucoup d'équipes de très haut niveau. Maintenant, cette équipe du Brésil et surtout ces joueurs du Brésil, quand ils vont jouer ces matchs-là...
À l'autre bout du monde?
À l'autre bout du monde, qui sont des matchs amicaux que nous, on connaît presque plus aujourd'hui en Europe, puisqu'on a créé la Ligue des Nations, qu'on a beaucoup critiqué, qui finalement donnent des matchs de compétition. Bien sûr qu'ils sont moins motivés. Ouais. Un joueur de foot est toujours moins motivé quand il joue un match amical. Quand en plus il évolue dans des très grands clubs européens et qu'il voit ça,
la distance y ajoute sans doute.
Voilà, il voit ça.
Les Africains étaient
comme
plus
une
motivés,
manière de se retrouver entre
Etienne,
eux.
Selon vous,
pardon.
Pour les Africains, il y avait plus de motivation peut-être.
C'est une évidence.
Ils font le tour du monde.
C'est une évidence, mais c'est tout à fait normal quand vous êtes une équipe, quelle qu'elle soit, que de toute manière vous affrontez le Brésil. Rien que quand vous voyez le maillot, vous êtes motivé à jouer face contre eux, et quand vous voyez le nom des joueurs, et parce que c'est vrai que c'était la meilleure équipe du Brésil possible qui était sur le terrain à chaque fois, évidemment, vous êtes doublement motivé.
Franck,
par rapport à ses performances, et je rejoins un petit peu ce que disait Gilles à l'instant, c'est vrai qu'on se dit le niveau des sélections nationales africaines est meilleur. Il est meilleur pour celle-ci. Malheureusement, la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Russie nous a démontré le contraire. La Coupe du Monde, excusez-moi, en Russie nous a démontré le contraire. Ça a été la pire Coupe du Monde pour les sélections africaines. Alors, c'est bien de marquer des points.
Même si certaines équipes avaient séduit et auraient presque pu passer.
On dit pas qu'elles n'ont pas séduit, mais les résultats, simplement les résultats, elles ne sont pas passées. Ça a été un fiasco malgré tout, sportivement.
Oui, à cause d'un carton jaune en trop,
on regarde ça, Annie. Je suis le premier à le déplorer. Et du coup, réussir des résultats contre le Brésil, comme c'est le cas, et ben ça donne du biscuit et à Rohr et à Aliou Cissé pour derrière bâtir les équipes,
travailler
et donner de la confiance pour les prochaines échéances. Et c'est super, c'est des motifs d'espoir, mais il faut capitaliser là-dessus. Il faut pas s'arrêter à ce nul en amical. Il faut continuer d'aller chercher des sélections européennes ou sud-américaines dans les matchs de préparation. Et puis, derrière, faire le taf dans la grande compétition.
Pour progresser. Bah oui. Gilles.
Etienne parlait de motivation. D'accord. Mais même si cette équipe du Brésil, elle est championne de son continent, c'est pas un immense Brésil en soi. Même quand ils sont motivés, ils ont pas fait une Coupe d'Amérique du Sud extraordinaire.
Non.
Ils ont gagné, mais
c'est pas ennuyé quand même en la regardant.
Non, jamais. Mais c'est pas une équipe qui nous transporte. Et Daniel Alves, il a pas fait exprès dans les matchs amicaux là face au Nigeria d'être nul. Marquinhos, il a pas fait exprès d'être devancé sur le premier but. Everton qui fait une première mi-temps calamiteuse à tel point qu'on l'évince après 45 minutes de jeu et c'était encore beaucoup trop pour lui. Il a pas fait exprès d'être mauvais parce qu'il voulait se faire quand même. Il voulait convaincre son sélectionneur. Donc j'entends l'argument de la motivation, mais pour moi c'est aussi que ce Brésil-là plafonne et que à leur top des sélections africaines peuvent rivaliser.
Ouais. De toute façon, on les connaît les Brésiliens. Ce qui les motive sur le plan international, c'est la Coupe du Monde, la Copa América.
Mais c'est
leur grand but, quoi. Alors, la Copa América organisée chez eux, ils voulaient pas faire autrement que de la gagner, ou les JO. Mais c'est vrai que eux, ils se transcendent toujours sur la scène mondiale.
Mais c'était bien aussi pour les Sénégalais. Je pense aux Sénégalais. On a vu Crépin Diatta, on a vu le retour de Famara Diédiou, on a vu Sadio, bien sûr, Sadio Mané, Gana Gueye. De les voir Kalidou Koulibaly, de les voir à ce niveau-là.
Voilà.
Parce que là, ils sont en pleine,
mais
ils sont en pleine
saison. Mais comme le disait Étienne, et totalement émoustillé par la vision de ce maillot jaune.
Mais pas,
à 5
mais pas seulement. C'est aussi de dire, voilà, nous, en fait, oui. dans les compétitions continentales, en Ligue des Champions ou quoi, et en championnat, dans les championnats nationaux,
on
leur tient tête. On brille. D'abord, on brille. Mm-hmm. Et en plus, on tient tête à ces Brésiliens-là. Maintenant, tous ensemble, montrons, nous, Nigérians, nous, Sénégalais, qu'on est capable de rééditer ça. Donc, c'est un bon point. Mais faut pas que ça s'arrête là. Faut pas que ce soit un one shot. Voilà, et c'est un petit peu le danger parfois qui guette les sélections africaines, d'un peu de s'enflammer. Donc j'espère qu'ils vont y réfléchir la prochaine fois qu'ils vont être sur d'autres équipes. Ouais. Et puis on espère aussi des victoires, plus que des victoires d'estime, des victoires dans les compétitions internationales.
Tout le monde vous écoute, Franck, en Afrique, j'en suis sûr.
Je sais pas,
les motiver.
Je pense qu'ils sont tous, ils ont tous envie.
Les fédérations, les entraîneurs, les sélectionneurs, ils vous écoutent. En tout cas, un fait notable dans ce match, notable pour beaucoup et notamment. Pas très loin du Parc des Princes, c'est la sortie à la 12e minute sur blessure de Neymar pour sa 101e sélection. Le médecin de l'équipe du Brésil, Rodrigo Lesmar, s'est voulu rassurant.
Est-ce qu'il s'est ressenti d'une douleur à la cuisse? Ouais, visiblement c'est le cas pour Neymar. Le gros coup dur pour la sélection et pour le numéro 10 brésilien, le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain, qui cède sa place après un tout petit peu plus de 11 minutes.
Neymar n'a pas ressenti une douleur trop violente, mais plutôt une gêne persistante. Il a préféré sortir, justement pour ne pas risquer de complications. Là, les premières 24 heures sont fondamentales pour comprendre ce qu'il s'est passé. S'il s'agit d'une fatigue musculaire ou bien d'un type de blessure dont nous devons nous occuper.
Étienne Moati, est-ce qu'on est déjà inquiet du côté du Paris Saint-Germain? Il devait passer des examens dès qu'il arriverait sur le sol français, alors le voyage est très long. Est-ce que il faut être inquiet désormais à chaque fois que Neymar sort en se tenant une cuisse ou une cheville ou un pied?
Forcément, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, dès qu'il arrive quelque chose à Neymar, on s'inquiète du côté du Paris Saint-Germain. Après, il y a l'option qui pourrait être rassurante pour le Paris Saint-Germain. Comme on sait que ces joueurs brésiliens, ils sont parfois obligés d'honorer donc des sélections, parce que ces matchs amicaux qui sont organisés où il y a beaucoup d'argent à la clé, il y a des garanties pour avoir donc une équipe type, et donc notamment certains joueurs qui sont inscrits dans les contrats, on le sait, avec Messi pour l'Argentine et avec Neymar pour le Brésil. Donc on va dire que Neymar, il a peut-être aussi, mais alors ça n'est qu'une hypothèse, absolument pas une information, dès qu'il a ressenti le moindre petit problème, donc une fois que la sélection était honorée, une fois que le contrat ne pouvait pas être remis en cause, choisi de sortir. En tout cas, c'est pour l'instant ce qu'on peut espérer, parce que pour le Paris Saint-Germain, pour l'image de Neymar, d'avoir encore une nouvelle blessure au moment où revient la Ligue des Champions serait embêtant.
Vous faites sourire nos camarades dans le studio. Gilles,
connaissant Étienne, il n'y a pas de phrase prononcée à la légère. Si tel est le cas, nous sommes face à un scandale sportif, qui est que des joueurs simuleraient des blessures pour sortir du terrain en ayant joué 10 minutes pour honorer un contrat de plusieurs millions de dollars en faveur de leur fédération.
On va dire que vu l'importance toute relative du match, à la moindre petite alerte qui ne serait pas une grande alerte si jamais c'était un match de compétition, on choisit plutôt de sortir que de rester sur le terrain.
Principe
là pour le
précaution.
Coup c'est l'histoire du football.
Mais si tel est le cas, ce serait quand même rassurant pour le PSG. Moi j'ai un naturel plus pessimiste, plus inquiet. Après les blessures
sauf
osseuses,
quand tu regardes les matchs de l'équipe,
les chocs, ouais. Les coups
avec une coupe de champagne toujours.
Voilà maintenant la blessure musculaire. Une blessure musculaire, même minime, même accentuée, ok, c'est quand même le signe d'une fragilité qui commence à perdurer pour Neymar. Et il y en a. Alors maintenant, dès qu'il va effectivement dans un match amical lointain, il revient blessé. Là, est-ce qu'il va pouvoir jouer le
à
match
Bruges.
Suivant Voilà,
en Ligue des Champions,
puis en Ligue des Champions, puis après il y a Marseille. Sa
alors
fragilité, voilà,
pas encore là.
Elle commence à devenir prégnante.
Ouais.
Ça commence à devenir un vrai problème.
Mais ça doit être un problème aussi pour le joueur, j'imagine, si, de se sentir si fragile, lui qui prétend finalement ou prétendait à être le successeur des deux grands du moment que sont Cristiano et Messi.
Voilà, ce qui
Franck, et pas seulement grâce à la médiatisation.
Là, peut-être aussi ce qui peut le Ce qui peut le gêner, c'est qu'il a, il a très bien recommencé le championnat. Il a été extrêmement important depuis qu'il a, repris que le Paris Saint-Germain uniquement en championnat, puisqu'il était, il peut pas jouer, il peut pas être aligné jusqu'à présent en Ligue des Champions. Et de fait, une coupure, une rupture, en fait, dans cette, entre guillemets, cette série, voilà, ça peut être de nature à le faire gamberger peut-être un peu. Mais je rejoindrais effectivement plutôt, Étienne dans le sens où, voilà, c'est pas un match si important que ça. Quand tu signes un contrat, on te dit il faudrait que machin et machin soient là au coup d'envoi. Et puis après si t'as une petite pointe derrière, coach, ouais. Voilà. Mais ça nous a pas semblé super non plus, super violent comme histoire. C'est de la précaution peut-être.
Ça peut être aussi une blessure psychosomatique, hein. Toute cette tension accumulée, il y en a énormément dans le foot. On sait très bien que la pression, la tension peut influer sur l'organisme.
Beaucoup d'exigences.
Ça peut être la résultante de cela aussi.
On vous donnera des nouvelles de Neymar dans Radio Foot International dès qu'on en aura, bien sûr. Les éliminatoires de la CAN 2021 peuvent donc commencer, et cela dès le mois de novembre. Les 12 groupes sont au complet, avec 51 équipes désormais en lice. Seulement 24 sélections disputeront la 33e CAN prévue au Cameroun. Et parmi elles, eh bien, le Tchad. Le Tchad qui atteint la phase éliminatoire aux dépens du Libéria, ce Libéria dont les couleurs ont un jour été défendues par le grand Georges Weah. Victoire obtenue au tir au but après deux matchs 1-0. Et surtout, peut-être, c'est ce qu'on a noté, nous, Franck Simon, c'est obtenu par le nouvel ex-entraîneur Emmanuel Trégoat, qui a repris la tête de cette équipe du Tchad.
Ouais. Donc, en fait, qualification, en fait, au tir au but, parce que 1-0 à l'aller, défaite donc à Monrovia, enfin à Painesville, victoire donc au stade, sur le stade de N'Djamena, sur le synthétique, le vieux synthétique, 1-0, qualification au tir au but pour Emmanuel, c'est son retour, effectivement, sur le banc des Sao. Faut savoir qu'entre le match aller et le match retour, ils ont eu quelques petits soucis. C'est pas si on en a parlé sur RFI, mais ils ont été coincés du côté du Niger, du côté de Niamey. Il y avait un problème, il y avait un avion en panne. Et donc eux, ils étaient tout pressés de partir du Libéria, de rentrer chez eux, se préparer. Et en fait, ils ont été
en rade
et voilà. Je pense qu'ils ont dû arriver samedi dans le courant de la journée. Il était question, j'ai pas eu de nouvelles après, mais d'un vol spécial peut-être présidentiel pour les ramener. Toujours est-il qu'ils sont rentrés à N'Djamena. Ils ont dû pouvoir s'entraîner. Ils ont réussi à aller chercher cette victoire, un but d'Ezekiel Ndouassel. Et se qualifier au tir au but, c'est bien parce que souvenez-vous qu'ils ont été éliminés pour la Coupe du Monde. Ils avaient fait le tour préliminaire il y a quelques semaines en arrière, le mois passé, éliminés par le Soudan. Ils avaient été giflés par le Soudan, en fait, à la maison à N'Djamena. Ils n'avaient pas fait mieux qu'un nul au retour à Khartoum. Et du coup, ça donne 6 matchs. Et c'est ce que me disait le coach Trégoat dans la nuit. On a échangé après la qualif. Et il était très heureux de se dire, on va avoir des gros matchs. Je crois notamment le Mali parmi les adversaires.
Dans leur groupe A, Namibie, je crois aussi. Namibie et Guinée.
Ouais, c'est bien pour cette équipe, pour les Sao du Tchad. On espère qu'entre-temps, Jafet Ndoram peut-être rejoindra cette sélection en qualité de manager général, de team manager. Ça serait bien pour ce qu'il peut apporter en termes d'expérience. Il y a besoin de tout le monde pour cette équipe.
Cette équipe du Tchad qui peut compter sur le joueur d'Angers. On se souvient
qu'il avait mis un
triplé récemment.
Mais là, il est pas trop en verve en équipe nationale.
Et on sait,
mais il y a quand même du très 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 beau monde. Il y a beaucoup d'expatriés. C'est une équipe quasiment composée que d'expats.
Je trouve que c'était de toute façon un match où la déception serait partagée par beaucoup de gens pour le perdant, parce que le Libéria aussi avait envie, besoin, pour tout un symbole, pour Georges Weah, pour de participer à ces éliminatoires ensuite et de se qualifier éventuellement.
Ils sont quand même en Coupe du Monde. Hein,
sur
l'éliminatoire, ils sont en poule.
Oui, mais
c'est un moindre mal quand même.
Oui, alors
chacune
des deux équipes effectivement a
phase éliminatoire,
bien sûr, mais pour le lustre du Libéria en Afrique, je trouve que ça aurait été un beau symbole.
C'est beaucoup dire quand même.
Ils ont évolué.
Tu fais deux coupes d'Afrique des Nations. Ça serait bien aussi que le Tchad, à son tour, ait le droit à une phase finale.
Je dis qu'une des deux, quel que soit l'éliminé de cette rencontre, je voudrais dire simplement que, pour terminer sur le Tchad, après cette longue suspension pour des raisons économiques aussi, c'est bien. Il y a un côté rédempteur de ce succès. Je le conçois. mais permettez-moi de partager une peine avec les Libériens.
Bon. Dans le groupe A, donc, le Tchad se retrouvera avec Mali et Guinée, et le premier match qui aura lieu à la mi-novembre, hein, dans la prochaine trêve internationale, opposera eh bien le Tchad à la Namibie en Namibie.
Ouais, pas simple, c'est pas simple. Ben, mais ils ont fait, rappelons-le, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Namibie, et ils ont un sélectionneur actuellement, un technicien qui est arrivé en cours de route. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose quand même, hein. ils sont motivés.
Ceux qui seront encore là dans les tentatives de qualification pour la CAN, ce sont les joueurs des Comores. Alors on se souvient hein, d'un peu du contexte de l'imbroglio autour de la non-qualification de cette équipe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Là, ils reprennent à zéro, les Comoriens, le chemin de leur qualification, Franck.
Voilà, vous dites à zéro, c'est dur pour eux quand même. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, eux-mêmes l'ont déclaré. On oublie tout l'épisode pour la CAN 2019.
Vous avez raison à dire ça, c'est-à-dire qu'ils oublient,
ils s'appuient sur le
travail. Ils oublient la campagne précédente. Mm-hmm. En revanche, ce qui est intéressant avec les Comores, c'est que sur le banc, on retrouve toujours Amir Abdou. Il y a une continuité depuis 6 ans.
Exactement.
C'est rare un pays africain qui fasse confiance à un sélectionneur. Un local déjà, enfin voilà, un citoyen comorien, ce qui est le cas d'Amir. On le laisse travailler, il y a eu des changements au niveau de la fédération, mais lui, il continue de travailler, il a son plan pour laisser la cante, et c'est une bonne chose. Et en plus, ce week-end à Versailles, il a obtenu plus qu'un succès d'estime, il a battu la Guinée de Didier Six. C'était la première fois pour Didier Six de diriger la Guinée. Ça s'est pas très bien passé pour lui, et c'est un match où ils vont faire des points pour le classement FIFA, c'est important pour eux. Et puis là, en plus, on a découvert de nouveaux joueurs. C'est ça qui est intéressant dans ce type de match. Le sélectionneur est arrivé à dire, jouez votre football. On a découvert un jeune stopper qui joue à Caen, qui a été très impressionnant parce qu'en face, il y avait quand même du beau monde. Hein. Vous avez quand même François Camano, vous avez Las Bangoura, par exemple. Vous avez Yatara, sous les yeux de Pascal Fendouno, qui était venu les encourager. Et on a eu laissé la cante, les Comoriens, qui ont fait un joli petit match. C'est bien pour effectivement préparer la campagne.
Gilles, un petit mot ?
Après, oui, pour revenir sur les Comores, on parlait tout à l'heure, ça nous ramène à notre débat initial sur les ingérences du politique dans le domaine sportif. Et je regardais avant de venir le nombre, hélas, d'ingérences de gouvernements africains dans la vie des fédérations sportives pour nommer des sélectionneurs, en révoquer d'autres,
ça
etc.
Existe, ça,
ça a existé beaucoup trop. Et quand effectivement, je rebondis sur ce que
Etienne
disait Franck...
Etienne le dira à la FIFA. Hein.
Oui, quand il y a de la stabilité, quand on laisse des gens travailler, quand le pouvoir sportif peut s'exprimer...
On pense à lui,
Mais l'exemple des Comores est là aussi. Mm-hmm. Même avec, je dirais... des réussites inégales, des budgets limités. Et bien,
très limité pour les Comores.
Mais oui, il y a une continuité sportive. Et ça, je trouve ça intéressant. Laisser, partout dans le monde, mais en Afrique aussi, laisser les sportifs travailler.
Alors, cette équipe de Comores se retrouve dans le groupe G. Elle sera avec l'Égypte, le Kenya et le Togo. Et le premier match sera Togo. Comores. Et ça sera aussi
pas simple.
Les Togo
n'ont pas bien réussi leur passage en France. Hein. Ils ont perdu notamment contre le Cap-Vert il y a quelques jours à Marseille.
On continue, dernier thème de cette émission.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
D'un Olympique à l'autre, Rudy Garcia, qui a entraîné durant 2 saisons et demie l'Olympique de Marseille, son dernier poste, eh bien, va entraîner ces prochains mois l'Olympique lyonnais. La situation s'est décantée ce matin. L'OL a fait signer à l'entraîneur un contrat de 2 ans. L'OL a communiqué par écrit, par photo, par tweet, hein, comme c'est désormais le lot des clubs, avec un cliché notamment de Rudy Garcia et de Juninho, bras dessus, bras dessous. Est-ce que ce choix vous surprend, Étienne Moati ?
Ah oui, énormément. Franchement, si on m'avait dit au départ, donc quand Silvinho est débarqué, que ce sera Rudy Garcia qui va lui succéder, franchement, j'y aurais pas cru. Ça paraît invraisemblable. Rudy Garcia, il reste quand même sur un échec extrêmement important avec l'Olympique de Marseille. C'était il y a pas longtemps. Et c'était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il part avec une image quand même assez nettement dégradée, en tout cas en France. Et quand vous sortez d'une période Genesio où les supporters étaient extrêmement remontés contre leur coach, vous êtes dans un club un petit peu en crise, il est extrêmement étonnant que ce soit Rudy Garcia qui vienne apaiser tout ça. Vous aviez un autre candidat qui était Laurent Blanc, qui a lui quand même réussi un peu partout où il est passé, qui a une très bonne image, qui a une bonne image auprès des supporters, qui déploie un jeu intéressant, offensif, qui plairait peut-être pas à Gilles, mais bon, c'est quand même intéressant parfois au football de voir des actions offensives et un jeu bien léché. Donc il avait, de mon point de vue, quand même, et beaucoup d'éléments donc pour prendre la tête de l'OL, choisir Rudy Garcia. Je pense qu'à Lyon, les supporters sont pas forcément ravis.
Justement, Franck, les supporters sont peut-être pas sûrement ravis. On se souvient, par exemple, de Valbuena quand il était passé, et c'était pas le seul, hein, il y avait eu aussi Jérémy Morel, mais quand il était passé de Marseille à Lyon, on se souvient de la réception de Marseille qui avait mal reçu Valbuena. Peut-être que dans l'autre sens aussi, des fois, ça se passe pas très bien. Est-ce que là, Rudy Garcia, vous trouvez que c'est l'homme de la situation dans ce club?
A priori, enfin, on n'en sait rien pour l'instant. Je rejoins.
Non, Rudy Garcia, champion de France, on s'en souvient avec lui, il a des trucs, mais.
Si vous voulez, je rejoins Étienne par rapport, effectivement, aux réserves qu'on peut
émettre. Il a un palmarès, mais.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez clivant, quoi, de toute façon. Bon, il avait réussi une belle aventure européenne, mais ça commence à tâter maintenant avec l'Olympique de Marseille.
Bah, c'était avant des choses.
De toute façon, c'est un club, pardonnez-moi l'expression, qui a le feu aux fesses. Il va falloir à un moment donné qu'il faut faire des résultats, il faut se remettre. Mm-hmm. Oui. Donc,
il a pas trop mal parti en Ligue des Champions.
Oui, je laisse la Ligue des Champions de
en
côté.
Championnat en championnat, il y avait
eu des promesses, mais qui ont été vite tués dans l'œuf. Et du coup, lui, il n'aura pas le choix. Il faut convaincre. Il y a des réticences. Moi, je suis très très réservé sur cette arrivée, effectivement.
Et on en parlait
avec
aussi,
Étienne ici. Hein. On disait que Laurent Blanc
avait une tête de
futur coach de l'OL.
Que Laurent Blanc serait l'homme de la situation. Gilles,
alors,
vous aussi?
C'est une surprise, oui, effectivement. D'autant plus que on se souvient, il y a un an, des échanges quand même assez houleux à propos de l'arbitrage entre Rudy Garcia et Jean-Michel Aulas.
Oui.
Tout est oublié.
Voilà. Après, sur Blanc, très franchement, Laurent Blanc, c'est le candidat des médias. C'est-à-dire qu'il a une bonne image parmi la presse, il a beaucoup d'amis et tous les médias le plébiscitent à chaque fois pour aller partout et je constate qu'il va nulle part. Donc c'est qu'il y a un problème. Alors je veux bien qu'on dise que le problème est injuste, mais si tant de dirigeants au bout d'un moment ne le choisissent pas, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Mm-hmm. Et pour moi, c'était Blanc-Gasset ou rien.
Et comme
Gasset ne peut ou ne veut pas venir à Lyon après avoir été à Saint-Etienne.
Ça pouvait pas être Gasset tout seul.
Ça pouvait pas être Gasset tout seul. Et ça peut pas être Blanc tout seul parce que les dirigeants estiment que Blanc bosse pas assez. Alors je veux bien que ce soit peut-être injuste, mais ils pensent tous ça.
Non, mais Gilles a raison. C'est vrai qu'il y a forcément un problème d'image autour de Laurent Blanc parce que si vous regardez ses résultats d'entraîneur, je veux dire, ils sont bons. Ils ont pas bon uniquement au Paris Saint-Germain.
Il était bien bon à Bordeaux à l'époque.
Il a été champion de France avec Bordeaux. Il avait mis fin à l'hégémonie lyonnaise.
Parce que c'est pas rien.
En développant un jeu qui était un jeu très intéressant. Au Paris Saint-Germain, c'est quand même lui qui a mis en place ce jeu de possession qui a quand même pas si mal que réussi que ça. On s'en rendait compte par la suite avec les autres entraîneurs qui ont suivi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il fait toujours deuxième ou troisième à chaque fois qu'il y a un poste qui se libère. Et il n'a jamais le poste. Donc il doit bien y avoir une raison. Je suis d'accord avec Gilles.
Et pas qu'en France en plus, Étienne, hein, parce qu'on le pressent, on l'annonce parfois.
Quand vous échouez donc à prendre un des 6 ou 8 meilleurs clubs européens, on peut dire qu'il y a une concurrence.
Et sélection.
Qu'il y a une concurrence importante et que vous êtes supplanté par un Guardiola, par un Antonio Conte,
Mourinho,
vous pouvez vous
tout.
Dire que là, finalement, vous êtes peut-être à votre place, mais quand vous êtes supplanté par Rudy Garcia, qui vient de se faire virer de Marseille, qui a une image déplorable en ce moment, et que vous étiez le favori, donc, de, pas simplement des journalistes, mais un petit peu de tout le monde, et que vous n'avez pas le poste, c'est qu'en effet, j'ai la raison, il y a un petit problème d'image.
Après, il se disait aussi qu'au sein de la doublette Blanc-Gasset, le maître, je manque pas de respect à Blanc du tout, hein, qui est un immense joueur et grand entraîneur, mais le monopole de la tactique, c'était Gasset. Donc certains dirigeants se disent aussi peut-être qui va faire
l'un
la tactique,
l'autre.
L'un sans l'autre. L'adjoint que voulait Blanc, Passy, ne fait pas non plus l'unanimité. Donc ça devenait un attelage compliqué et c'est un attelage qui finalement a été retoqué.
Bon, en tout cas, on se souvient quand même de Rudy Garcia, vainqueur avec cette équipe de Lille à l'époque où ils avaient fini champion de France et où ils avaient fait en plus gagner la Coupe de France cette année-là. Ça, c'était en 2011.
Vous avez raison, mais ça commence à dater,
11,
non
ou,
ça 11, commence
hein,
un
c'était
peu à
2011.
Dater.
11 ou 12.
Non, 11 ou 12, oui. 2012, c'était Montpellier.
C'était Montpellier.
Donc c'était 2011.
Ouais. Mm-hmm. Non, mais ça commence à dater, ça, franchement, Annie. Hein, ce parcours avec le LOSC, évidemment, on était élogieux à l'époque de ce qu'ils avaient pu proposer, etc. Mais
2011.
Ça fait loin tout ça, quoi. Mm-hmm. Ça fait très très loin.
Ouais. Donc en tout cas, Rudy Garcia a un contrat jusqu'en 2021 et ce soir, on verra s'il y a une déclaration.
c'est pas non plus un contrat de 5 ans. Hein.
Non.
21, voilà, 1 an et demi pour redresser la barre.
Et une dernière nouvelle que me communique David Finzel via évidemment l'AFP, c'est Neymar blessé et absent 4 semaines puisqu'il devait passer des examens.
Il n'y avait pas de simulation du tout et donc une blessure sérieuse et très embêtante pour le Paris Saint-Germain. Ouais.
Merci à Laurent Salerno qui a réalisé l'émission aujourd'hui. Merci donc à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h10 en temps universel.